Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le G20 débute au Japon ce vendredi à Osaka. Un sommet qui s'annonce explosif en plein contexte géopolitique agité. Cela va du conflit commercial entre Washington et Pékin, aux tensions autour de l'Iran ainsi qu'autour du climat. Nous rejoindrons notre envoyé spécial dans un instant.
Nous irons ensuite en Allemagne, où l'on s'inquiète de la santé de la chancelière Angela Merkel. Elle a encore été prise de tremblements incontrôlés en public hier.
Les favoris à la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 aux États-Unis. Ils ont multiplié hier les attaques contre Donald Trump. Ils s'affrontaient lors d'un débat télévisé, compte rendu à suivre.
Et il va faire encore très chaud ce vendredi. 4 départements du sud de la France sont en vigilance canicule rouge. Vous entendrez dans ce journal l'inquiétude des céréaliers.
Et puis nous avons interrogé les premiers volontaires du service national universel. Ils s'achèvent aujourd'hui après de belles découvertes et de gros coups durs, vous le comprendrez. Dans un gros quart d'heure, le billet politique. Frédéric Saïs reviendra sur l'invitation du MEDEF à Marion Maréchal, qui a par ailleurs dîné avec des responsables Les Républicains. Frédéric Saïs analysera cette dédiabolisation. La traditionnelle photo de groupe est prise. Tous, tout sourire, agitant la main droite en ouverture du G20 à Osaka. Cela va du Brésilien Jair Bolsonaro à l'Allemande Angela Merkel, du Français Emmanuel Macron jusqu'au Saoudien Mohamed Bin Salman. En bonne place, au milieu du cliché, l'Américain Donald Trump et le président du pays hôte, le Japonais Shinzo Abe, qui appelle ce matin à l'harmonie. Voilà le tableau de ce sommet du G20. Il a débuté tôt ce matin. Bonjour Dominique André.
Bonjour Clara.
Vous êtes notre envoyée spéciale à Osaka pour suivre donc cette réunion. Alors si Shinzo Abe appelle à l'harmonie, ce G20 commence en fait, Dominique, dans un climat extrêmement nerveux. C'est le président américain Donald Trump qui donne le ton.
Oui, en effet, l'ambiance est électrique avec un Donald Trump en fait omniprésent qu'on retrouve sur tous les dossiers sensibles du moment, l'Iran, la Corée du Nord, la guerre commerciale sino-américaine et puis la lutte contre le changement climatique. Le climat fait l'objet d'une contre-offensive qui est menée en fait par Emmanuel Macron depuis son arrivée au Japon il y a 2 jours. Emmanuel Macron est vent debout pour défendre l'accord de Paris qui a été signé en 2015. Ce matin, le chef de l'État s'est réuni avec les principaux dirigeants européens juste avant l'ouverture du sommet. Il y avait Jean-Claude Juncker pour la Commission européenne, Donald Tusk pour le Conseil, l'Allemagne avec Angela Merkel, l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas. Et puis Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, est arrivé en renfort pour défendre avec ce front européen l'accord de Paris sur le climat. L'enjeu pour cette coordination Europe-Canada qui s'est constituée, c'est de contrer Donald Trump, donc les États-Unis, seul pays à ce jour à avoir quitté l'accord de Paris. Et les Américains veulent faire pression sur 3 ou 4 pays du G20, le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Australie et la Turquie, pour qu'ils se retirent eux aussi autour de la table des négociations en ce moment à Osaka. Les États-Unis tiennent un langage dur, fait savoir l'Élysée, sur cette question du climat. L'autre sujet explosif à Osaka, c'est la guerre commerciale sino-américaine, avec des négociations de nouveau dans l'impasse entre les États-Unis et la Chine. La guerre commerciale menace la croissance mondiale. Donald Trump et Xi Jinping se verront demain matin.
Voilà donc, Dominique, pour les enjeux de ce G20 présidé par le japonais, le premier ministre japonais Shinzo Abe. Les rencontres vont donc s'enchaîner. Et ce matin, Dominique, les dirigeants européens se sont vus.
Oui, alors dans cette ambiance hyper tendue, les Européens tentent tout de même de trouver un coin un peu plus calme. Ils profitent en tout cas d'être tous là pour se consulter et tenter de trouver un accord politique sur leurs futurs dirigeants. Il n'y aura pas de fumée blanche à Osaka, mais les noms pour les 4 grands postes devraient être trouvés à temps, fait-on savoir, pour le sommet de l'Union européenne qui se tiendra dimanche à Bruxelles.
Merci beaucoup Dominique André en direct ce matin depuis Osaka pour France Culture. Vous êtes avec Nicolas Mathias qui assure les moyens techniques. Je précise qu'il y a quelques minutes, le tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine a débuté. Ils ont, selon le président américain, de très bonnes relations. Lors de ce G20, l'attention sera également portée sur Angela Merkel car juste avant de rejoindre le Japon et Osaka, la chancelière allemande a encore été sujette en public à des tremblements. Voilà qui inquiète un peu plus sur sa santé. Cela s'est passé hier, 9 jours après un précédent épisode, Ludovic Piétonnu.
Tout son corps se met à trembler, ses jambes, ses bras, son visage. Elle a beau à chaque fois tenter de se tenir les mains comme pour essayer de contenir ses tremblements, ils sont irrépressibles. La fois précédente, il était question de déshydratation. Selon son service de presse, elle avait dû boire de son propre aveu au moins 3 verres d'eau pour aller mieux. Hier, lors de ce nouvel épisode de tremblement qui dure 2 minutes, chose surprenante, elle refuse le verre d'eau qu'on lui tend. Mais l'élément de nature à inquiéter, c'est qu'autant la dernière fois elle se tenait en plein soleil, il faisait au moins 30 degrés, hier c'était en intérieur et au frais. Et pas de canicule à l'extérieur, juste une température estivale. Son porte-parole a évacué le sujet, il s'est voulu rassurant. La chancelière se porte bien, tout se passe comme prévu. Allusion à la longue séquence diplomatique qu'elle vient d'entamer. G20 au Japon, plus sommet extraordinaire européen dimanche soir. L'Allemagne est désormais vraiment inquiète, ce qui n'était pas le cas après le premier épisode. Des spasmes que même certains médias avaient alors délibérément choisi de ne pas évoquer. Mais maintenant, la question est partout. Que se passe-t-il vraiment? Et peut-elle tenir 2 ans jusqu'à la fin de son mandat.
Inquiétude également en Tunisie sur la santé du président Bedji Caïd Essebsi, est hospitalisé dans un état critique victime d'un grave malaise. Dans la soirée hier, un conseiller de la présidence indiquait que l'état de santé de Bedji Caïd Essebsi commençait à s'améliorer sans donner plus de précision. Voilà, alors qu'hier le pays, la Tunisie, était touché par un double attentat. À Tunis, 2 attaques suicides ont fait 1 mort et 8 blessés. Les terroristes visaient des policiers. Le groupe État islamique a revendiqué hier soir ces attaques. Ce matin, l'ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d'Arvor, a voulu tempérer la situation.
Il s'agit d'actes assez isolés. Il faut quand même très relativiser ce qui s'est passé hier. Non pas que ce n'est pas beaucoup frappé l'imagination des uns et des autres, mais il y a eu beaucoup de détermination dans la réponse des forces de sécurité. Ce qui est évident aujourd'hui, si vous voulez, c'est que la Tunisie, elle a appris, hélas, des attentats terribles du Bardo, dont on se souvient, en 2015, de Sousse, avec des dizaines de morts, des touristes en l'occurrence qui étaient visés, des étrangers. Il y a eu un énorme travail. Vous savez, le budget tunisien est passé de 4% à 16% pour la question de la défense et de la sécurité. C'est pour ça d'ailleurs que les touristes reviennent de manière importante. C'est que les grands lieux touristiques, les plages, pour ne pas les citer, de Djerba, de Sousse, de Monastir, toutes ces plages sont très sécurisées. Mais il y a en effet des points de fragilité. Il y avait eu en octobre dernier d'ailleurs un attentat suicide, une femme qui kamikaze qui s'était fait exploser sur l'avenue Bourguiba. Moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est la réactivité quand même des officiers de sécurité qui ont évidemment immédiatement contrôlé la situation.
Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur de France en Tunisie, il répondait ce matin à Marc Fauvel. Le premier débat avait réuni la nuit dernière plus de 15 millions de téléspectateurs. Ils ont probablement été plus nombreux encore cette nuit pour regarder le deuxième débat de la campagne à l'investiture démocrate pour la présidentielle 2020 aux États-Unis. Les 10 derniers candidats s'affrontaient, dont les plus populaires, le sénateur socialiste Bernie Sanders et l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden. Un échange bien plus musclé cette fois, Grégory Phillips.
Dès l'ouverture de ce second débat, la cible est toute trouvée. Donald Trump nous a placés dans une situation horrible, dit Joe Biden. Et Bernie Sanders renchérit. Les Américains savent très bien que Trump est un escroc, un menteur pathologique et un raciste. Mais très vite, c'est le plus expérimenté des candidats, Biden, qui est aussi la cible des attaques de ses concurrents démocrates. Le représentant de Californie, Eric Swalwell, raconte que lorsqu'il avait 6 ans, il a entendu un certain Joe Biden, déjà candidat à l'investiture démocrate, dire qu'il fallait passer le flambeau aux nouvelles générations. Alors faites-le. Biden, 76 ans, accuse le coup. Puis la sénatrice de Californie, Kamala Harris, particulièrement offensive hier soir, attaque elle aussi. Je sais bien que vous n'êtes pas raciste, dit-elle à Biden, mais elle évoque les récents propos de l'ancien vice-président qui avait salué la courtoisie de 2 sénateurs, pourtant connus pour leur position ségrégationniste. Biden, le favori, prend des coups. Kamala Harris marque des points. Prochain débat pour les démocrates fin juillet à Détroit. La campagne ne fait que débuter et la route sera longue jusqu'à la convention qui, en juillet 2020, désignera celle ou celui qui affrontera Donald Trump.
C'était Grégory Phillips depuis Miami.
Et il est 8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La vigilance canicule est rouge dans le Midi ce vendredi.
45 degrés, voici la température maximale prévue par Météo France aujourd'hui au plus chaud de la journée. Nous ferons une météo complète en fin de journal, mais penchons-nous pour le moment sur les conséquences de cette canicule sur l'agriculture française. Elle commence à se faire sentir. Le ministre de l'Agriculture a déjà annoncé l'interdiction du transport d'animaux cette semaine. Mais il est plus difficile de protéger certaines cultures et notamment les céréales, Anne Lorchouin.
C'est la pleine période de remplissage du blé, le moment où les grains se forment et grossissent. Ce stress thermique que ne peut pas compenser l'irrigation pourrait amoindrir les récoltes. François Laurent est directeur du recherche et du développement à l'Institut du Végétal Arvalis.
Dans cette phase de remplissage, effectivement, il y a des effets négatifs, des excès de température qui peuvent diminuer, on va dire, la taille des grains, le quantité d'amidon qui migre dans ces grains et qui fait infiner le rendement.
Le secteur agricole avait été l'un des plus touchés par la canicule de 2003. Et si les agriculteurs ont l'habitude de gérer ce type d'événements climatiques, leur répétition, leur longueur et surtout le fait qu'ils arrivent de plus en plus tôt dans l'année met en péril les productions. S'adapter, c'est donc toute la question. Pour cela, plusieurs moyens, selon François Laurent.
Faire un effort au niveau de la sélection, obtenir des variétés futures qui soient plus tolérante à la fois au stress thermique comme ceux qu'on vit actuellement, mais aussi au stress hydrique. Et donc il y a tout un tas de travaux effectivement, notamment de recherche, visant à identifier le type de patrimoine génétique de certaines variétés qui les rendraient plus à même de résister à ce genre d'épisode.
Par ailleurs, le secteur agricole est l'un des rares qui ne soit pas obligé de s'assurer. Or, sans assurance, certaines exploitations les plus fragiles risquent tout simplement la disparition. Le ministre de l'Agriculture souhaite donc une concertation sur le sujet.
Jean-Luc Mélenchon sera jugé en correctionnel pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Cela fait suite à des accrochages qui avaient émaillé les perquisitions visant son domicile ainsi que le siège de la France insoumise en octobre dernier. Deux personnes, dont l'imam de Brest, ont été blessées hier par balle devant l'une des mosquées de la ville. Le tireur a été retrouvé mort quelques heures plus tard. Il se serait vraisemblablement suicidé après avoir justifié son geste par écrit. Les enquêteurs ne donnent pas plus de précisions ce matin. Le premier service national universel s'achève aujourd'hui pour les volontaires de 15 à 16 ans. Il aura duré 11 jours. Dans le Val d'Oise, à Pontoise, les adolescents, volontaires donc, ont enchaîné les activités sportives, les cours d'autodéfense, d'éducation civique, d'éducation sexuelle également, et les cours collectifs avec des associations. C'est donc l'heure du bilan de ce stage presque militaire. Simon Cardona est allé sur place.
Le ventilateur tourne à plein régime. En face, 15 adolescents en basket, cyclistes noirs et t-shirt floqués au logo du SNU, supervisé par un responsable de la Croix-Rouge.
Combien de signes de vie à contrôler sur la personne ?
Hugo doit mettre son camarade en position PLS. Il a fait le trajet depuis l'heure pour trouver dans le SNU de la discipline.
Parce que, ok, certes, il y a l'âge un peu bébête où effectivement on a tendance à vouloir faire des bêtises, on est insta avec les copains. Le SNU, c'est quelque chose où justement ça fait passer cet âge bête.
Pour cet aspirant gendarme de 16 ans, le SNU peut être utile à tous les adolescents.
Moi, je dirais qu'il faudrait les imposer leur service. Ça leur apprendrait déjà, parce que c'est la base du respect, la base de la discipline et même la base d'écouter les autres.
De l'autre côté de la pièce, Pearl de Guyane s'entraîne avec Aïcha du Morbihan. Les deux filles ont aimé le brassage social et les cours d'éducation civique du SNU, mais regrettent son côté trop militaire.
On a toujours marché au pas, toujours uniforme, on a été pareil, lever des drapeaux et tout.
C'est d'ailleurs la limite du SNU, d'après ces adolescentes. On ne pourra forcer personne d'y aller.
Il y avait des moments donnés où elles étaient en pleurs. Elles voulaient toutes rentrer chez elles, elles en avaient marre.
Sachant que nous, on est volontaires, on a craqué, alors ceux qui ne le sont pas, comment ça va être en fait ?
C'est le grand défi du SNU ces prochaines années, admet le chef du centre de Pontoise, Frédéric Hervé.
Bien sûr qu'il y en a qui n'ont pas envie de venir. Tout notre but, notre dessein, voire notre talent, ça va être de susciter l'adhésion. Faire de ce séjour de cohésion un moment où on va réussir à rassembler les jeunes, y compris ceux qui n'avaient pas envie d'être là.
Pour ces 200 adolescents, l'étape de cohésion du SNU est terminée. Il leur reste une mission d'intérêt général à réaliser chez eux, sauf pour Pearl qui fait partie des 150 volontaires sélectionnés pour défiler le 14 juillet.
Position, en ligne, une belle ligne, en avant.
Et cette année 2038 adolescents ont participé au SNU partout en France. L'année prochaine, le gouvernement espère en convaincre 40 000. Faut-il tout montrer au théâtre et comment le faire ? Question que s'est posée pour le grand reportage de France Culture Cécile de Kervas-Doué. Question qui fait aussi écho à la représentation des suppliantes d'Eschyle, repoussée au printemps dernier à Paris car critiquée par des associations. Les acteurs portaient des masques noirs, actes négrophobes selon certaines associations. Depuis, des centaines d'universitaires et de personnalités qualité de la culture ont soutenu cette pièce, mais le sujet reste encore brûlant, comme en témoigne le metteur en scène Jean-Michel Rabeu.
Le théâtre, c'est le lieu où le crime doit s'exprimer. Le théâtre, c'est le lieu qui questionne l'impossible citoyen. Donc évidemment, au théâtre, pour dénoncer le crime, on montre le crime. C'est les Grecs qui ont inventé ça il y a 2000 ans. Pour que le sang ne coule pas dans la cité, on fait couler le sang sur le plateau. Donc si on peut pas faire couler le sang d'un noir sur le plateau, parce que ça serait raciste de faire couler le sang d'un noir, il n'y a plus de théâtre. Le théâtre, ça fait vivre le crime. Ça n'en parle pas. Ça fait vivre dans le spectateur. Qu'est-ce qui se passe dans le spectateur quand il y a un noir qui est derrière des barreaux et qu'on maltraite? Il se passe quoi en toi, spectateur? Tu le prends ton pied? Ou au contraire, ça te dégoûte? Ça te fait penser? C'est ça le théâtre. Donc, faut pouvoir montrer le crime.
Eux, ils disent, OK, montrons le crime, mais avec des acteurs noirs.
Évidemment, si on fait jouer des noirs par des noirs exclusivement, il faut faire jouer les PD par les PD exclusivement, les criminels par les criminels, ça veut dire quoi? Il peut y avoir aussi une raison à ce que justement l'acteur soit peint. Ça peut être une raison qui n'est pas une raison raciste. Moi, j'ai fait un Marivaux où un des personnages était peint. Parce que, au 17e, c'était une décoration raciste, évidemment. Je le sais, je l'ai fait pour ça, pour dénoncer ça. On me dit, vous êtes raciste inconsciemment, mais ça a pas, non?
Le metteur en scène Jean-Michel Rabeu, interrogé par Cécile de Kervas-Doué, que nous retrouverons en longueur ce soir à partir de 17h pour le grand reportage de la rédaction de France Culture. Il s'intitule « Théâtre à la recherche de la transgression perdue ». Il a été réalisé grâce à Annie Brault et sera suivi d'un débat autour d'Aurélie Kiefer. La canicule encore en France métropolitaine, elle s'accentue, je vous le disais, sous un plein soleil. Le Gard, le Vaucluse, l'Hérault et le nord des Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance rouge. 76 autres départements sont en alerte orange aujourd'hui, avec ce matin 24 degrés à Bordeaux, 25 à Strasbourg, 27 à Paris, mais déjà 32 à Nantes et Lyon et 35 ce matin à Montpellier.
Merci Clara Lecoq-Réal.